Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Métropolez-vous, le rendez-vous que Radio Présence vous propose chaque semaine avec l'actualité de Toulouse Métropole. L'environnement et sa préservation, la lutte contre le réchauffement climatique, la qualité de l'air et la sobriété énergétique sont au cœur des préoccupations des élus métropolitains, entre autres pour des raisons de santé publique, une problématique aux aspects multiples sur un territoire en plein essor démographique, mais qu'il faut traiter et à laquelle il est essentiel d'apporter des réponses. L'une des réponses a consisté en l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial de Toulouse Métropole, le PCAET, un document que nous avons déjà eu l'occasion de vous présenter dans cette émission. Il regroupe de nombreuses actions lancées au niveau métropolitain. Reste à savoir comment ce plan et les actions qui le structurent ont été déclinées dans chacune des communes de la métropole. Et d'ailleurs, sont-elles toutes déclinables au niveau communal selon les moyens dont disposent les collectivités concernées? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission consacrée à la déclinaison du PCAET dans les communes de Toulouse Métropole. Mon invité est justement le vice-président de Toulouse Métropole en charge de la déclinaison du PCAET dans les communes. Il s'appelle Romain Vaillant et il est également maire de Villeneuve-Tolosane. Bonjour monsieur le vice-président, je suis d'autant plus heureux de vous recevoir que c'est la première fois que vous venez à Métropolez-vous et même à Radio Présence il me semble.
Exactement, bonjour, bonjour à tous et merci pour l'invitation.
Petit voire grand rappel concernant le PCAET, comment et par qui ce document a-t-il été élaboré, en quoi consiste cette démarche et quels sont ses objectifs de départ?
Alors le plan climat air énergie territorial, donc PCAET, c'est un outil de planification qui est à la fois stratégique et opérationnel, qui permet aux collectivités, en l'occurrence à Toulouse Métropole, d'aborder l'ensemble de la problématique air, énergie, climat sur leur territoire, à la fois sur le versant adaptation et sur le versant atténuation surtout.
La démarche, à la base, c'est une réflexion collective, hein, parce que évidemment, un document comme celui-ci, il faut du temps, il faut mettre beaucoup de gens autour de la table pour le concevoir.
Certes, mais c'est aussi un diagnostic qui doit être posé à partir de données objectivées, fiabilisées par un certain nombre d'acteurs. Après quoi, il y a une stratégie, et effectivement, à ce moment-là, on met en branle un certain nombre d'acteurs pour pouvoir concevoir ces stratégies ensemble, qui va être déclinée en plan d'action et ensuite, effectivement, mis en exécution.
Qui a participé à l'élaboration du document? Alors, il y a les élus, sans doute, bien sûr, enfin les élus les plus concernés par les problématiques que j'ai citées au départ, mais aussi les services techniques, sans doute, de la métropole, des communes.
Évidemment, les services, qui sont en réalité la cheville ouvrière de toutes les politiques publiques. Hein. Mais plus globalement, il y a l'ensemble des acteurs, enfin des participants, qu'ils soient associatifs ou les habitants des communes, qui ont eu voix au chapitre au moment de l'élaboration d'un tel document.
Alors, ce qui a été défini après le diagnostic, c'est une stratégie, d'abord sur une tranche 2022-2025 qui arrive à son terme, et puis évidemment un plan d'action derrière et des moyens d'évaluer les résultats des actions qui ont été lancées.
Effectivement, au départ, en 2019, le plan d'action était regroupé selon quatre grands enjeux. L'atténuation de l'impact des activités du territoire sur le climat, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, l'adaptation du territoire au changement climatique. Après, l'amélioration de la qualité de l'air pour la santé et enfin la transition énergétique pour la croissance verte. Mais au mi-temps de ce PCAET, il y a eu une évaluation 2022, laquelle a d'ailleurs donné lieu à cette délégation que je porte aux côtés de François Chollet et qui donc a redistribué les cartes autour de 6 enjeux et 120 actions. Les 6 enjeux, donc on est sur la rénovation des logements, l'écomobilité, la production des énergies renouvelables localement, le fait de produire et de consommer durablement, le fait de voir la collectivité comme animatrice de cette transition énergétique et enfin qu'elle-même, la collectivité, soit une collectivité exemplaire.
Donc 6 grands axes, 6 ambitions phares pourrait-on dire, et donc des actions qui ont été déclinées derrière. Alors quels objectifs généraux ont été chiffrés à la base?
Alors au départ, on avait 3 grands objectifs chiffrés. C'était à la fois la réduction de 40% des gaz à effet de serre par rapport à 2008, donc à l'horizon 2030 toujours. Deuxième objectif, la réduction de 20% des consommations énergétiques par rapport à 2016. Et enfin, le doublement de la part locale des énergies renouvelables consommées sur le territoire.
Et alors, aujourd'hui, où en est-on sur l'ensemble du PCAET métropolitain par rapport aux objectifs qui avaient été fixés que vous venez d'énoncer ?
Alors, les derniers chiffres dont nous disposons, ils nous disent que sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on est assez loin de l'objectif puisqu'on serait à moins 4,3% seulement. Néanmoins, il ne faut pas oublier que dans la période, il y a une explosion démographique dans l'agglomération toulousaine et à Toulouse Métropole en particulier, qui fait que si on le rapporte au nombre d'habitants, on est cette fois à une diminution de moins 18,7%. Et donc, c'est davantage encourageant. Sur le deuxième objectif, qui était celui de la réduction des consommations énergétiques, on se situe désormais dans la trajectoire avec moins 8,6%. Et enfin, on est également en pleine trajectoire pour le développement des énergies renouvelables.
Vous parlez de l'augmentation de la population. Bon, on sait qu'elle est modélisée. Pour aujourd'hui, la métropole, c'est 9 à 10 000 habitants de plus chaque année. Ça a été intégré quand même dans les objectifs ou à chaque fois vous êtes obligé d'en tenir compte pour faire le petit exercice auquel vous venez de vous livrer, dire attention, il faut tenir compte de l'augmentation de la population entre-temps, ce qui fait que nous sommes moins éloignés de nos objectifs que prévu.
C'est un peu ça, c'est-à-dire que la dynamique démographique, elle exacerbe le défi qu'on s'était fixé. Donc ça veut dire que même si les objectifs sont pris en valeur absolue et l'atteinte de ces objectifs, on les ramène pour se comparer justement à des objectifs par habitant.
Merci d'avoir reprécisé ce qu'était le PCAET, comment il a été conçu et avec quels objectifs, autant de rappels nécessaires avant d'aborder sa déclinaison dans les communes, tâche à laquelle nous allons nous atteler dans quelques minutes. Pour l'instant, c'est l'actualité métropolitaine qui va nous intéresser grâce à Corinne Saint-Félix qui nous a préparé son habituel flash d'informations hebdomadaire Métropole et vous, l'actu.
Donnez par Internet votre avis sur le projet de la Halle des Mobilités. Toulouse Métropole organise une participation du public par voie électronique autour du projet de la Halle des Mobilités. La phase 1 du projet concerne la restructuration du parvis historique de la gare Matabiau. La phase 2 prévoit la réalisation d'un pôle d'échange multimodal, dont la Halle des Mobilités dans le secteur Marengo. Les questions portent sur 3 équipements. La Halle des Mobilités qui fera le lien entre la gare Matabiau, les deux lignes de métro A et C, un ensemble de bureaux et d'espaces professionnels et une vélostation de 1000 places. Vous pouvez vous exprimer du 26 mai au 26 juin. 3 communes de Haute-Garonne ont fait l'acquisition de sols qui ont vu évoluer l'équipe de France de hand. Il s'agit de Tournefeuille, Castanet-Tolosan et Ramonville. L'idée de recycler les infrastructures sportives ayant servi pour des événements mondiaux comme les JO se démocratise. Collectivités, donateurs et même les frères Karabatic ont mis la main à la poche pour combiner promotion du sport, économie et écologie. À Ramonville, un tout nouveau parquet a donc pris place au gymnase Léo Lagrange. Une seconde vie pour ce sol qui a été très peu utilisé par l'équipe de France et du rêve pour les jeunes qui vont l'utiliser. Un nouveau pass pour s'immerger dans la culture du territoire toulousain et métropolitain. La mairie et la métropole de Toulouse lancent le pass Toulouse Plus, une incitation pour découvrir et redécouvrir le territoire en bénéficiant de tarifs réduits dans différents établissements culturels, publics mais aussi privés. Il sera vendu 20 € et valable 12 mois. Entièrement dématérialisé, il pourra être acheté en ligne ou à l'office de tourisme. Les utilisateurs auront accès à une application dédiée répertoriant l'ensemble des parties. Elle permettra notamment l'accès aux musées et monuments de la mairie, mais aussi au muséum et au Quai des Savoirs, mis en service en juin. Et puis une découverte archéologique en marge du chantier de construction de la future ligne C du métro toulousain. Dans le quartier Saint-Aubin, une opération d'archéologie préventive a révélé des vestiges funéraires inédits, illustrant l'extension de Toulouse au-delà de ses remparts antiques. Les chercheurs ont mis au jour une voie pavée de galets attribuables à l'époque moderne et 8 tombes à inhumation datées à la fin de l'Antiquité, le 5e siècle après Jésus-Christ. Dans ces dernières, les archéologues ont découvert les corps d'hommes, de femmes et d'enfants. Les objets retrouvés sont pour le moment rares. Les vestiges découverts feront l'objet d'analyses approfondies dans les laboratoires de l'INRAP.
L'actualité métropolitaine vue par Corinne Saint-Félix. Merci beaucoup Corinne. Romain Vaillant, je crois que vous souhaitiez réagir à la dernière information de ce flash, même la commenter. Celle qui concerne une découverte archéologique en marge du chantier de construction de la future ligne C du métro. Et l'archéologie, un sujet qui vous passionne.
qui m'intéresse beaucoup, en effet, et ça se sait peu, mais il y a des archéologues au sein même des équipes de Toulouse Métropole, notamment au niveau de la direction du patrimoine, et j'ai eu la chance de les côtoyer lorsque, dans le cadre d'un projet que nous avions de mise en valeur du patrimoine archéologique de Villeneuve-Tolosane, qui est bien connu chez les archéologues, eh bien, ils se sont associés à ce projet-là, donc de musée archéologique à ciel ouvert, pour mettre à l'honneur cette période chasséenne qui date de moins 5000 avant Jésus-Christ et donc qui est la marque de nos hommes préhistoriques qui ont commencé à se sédentariser puisque c'était finalement les premiers agriculteurs dans ces plaines de Garonne.
Musée qu'on peut visiter tous les jours de la semaine ou...
C'est un musée à ciel ouvert, ça veut dire que c'est finalement un parc qui connaît un parcours muséographique et qui donc fait l'évocation de ce sous-sol riche dont nous avons la chance de bénéficier en région toulousaine.
Eh bien, merci pour cette information qui va sans doute, elle aussi, passionner ceux qui s'intéressent à l'archéologie et à l'histoire de notre territoire métropolitain. Merci pour ces commentaires à l'actualité. Nous allons maintenant revenir au sujet principal de cette émission, la déclinaison du PCAET, le plan climat air énergie territorial, dans les communes de Toulouse Métropole.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous, toujours avec Romain Vaillant, maire de Villeneuve-Tolosane et vice-président de Toulouse Métropole en charge de la déclinaison du PCAET dans les communes. Nous en venons donc au cœur du sujet. Comment fait-on pour décliner dans les communes un document aussi vaste et structuré que le PCAET, 120 actions en tout, je le rappelle.
C'est ça. Eh bien, à vrai dire, depuis peu, nous avons recruté à Toulouse Métropole une chargée de mobilisation des communes et qui va avoir vocation, justement, à aider les communes à élaborer leurs propres plans d'action communaux, plans climat communaux, pour décliner, justement, ces objectifs métropolitains. Sans quoi, il s'agissait pour chacune des équipes techniques et politiques des communes de s'emparer des objectifs métropolitains pour les décliner à leur façon.
Donc vos relais dans les communes à ce jour, ce sont les maires et leurs adjoints, leurs élus en charge de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique.
La preuve n'est plus à faire de l'enjeu environnemental et de la lutte contre le dérèglement climatique chez les maires. Donc ça, c'est une heureuse nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, ils sont tous très sensibles à la question. Les maires adhèrent et leurs élus délégués aux questions environnementales également, évidemment. Et nous avons essayé de concevoir des instances dans lesquelles les techniciens et les politiques se parlent aussi. Et ça, c'était très important pour continuer en permanence cette sensibilisation.
Oui, parce que ce sont les techniciens quand même à l'arrivée, les gens responsables des services, qui vont dire « ça on sait faire, ça on sait pas faire, on n'a pas les moyens de faire ».
Certes, mais il y a souvent un surcoût aussi aux actions environnementales et il faut pouvoir les porter politiquement. Donc pour ça, il faut d'abord être convaincu.
Alors, les actions et les objectifs du PCAET, est-ce que ce sont forcément les mêmes dans toutes les communes de la métropole? Moi, j'aurais tendance, vu de l'extérieur, à penser que non, parce que toutes n'ont pas les mêmes moyens et il n'y a peut-être pas non plus les mêmes enjeux dans toutes les communes. Est-ce que c'est le cas?
Il y a évidemment une adaptation de tout cela, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif décliné à l'échelle communale des objectifs PCAET. Ça veut dire que chacun s'empare des actions qu'il peut mettre en place en fonction de ses moyens, de ses équipes techniques, de ses projets, pour tendre vers ses objectifs métropolitains. Mais aucune commune ne se voit assignée à un objectif précis par action.
Ouais, c'est pas quelque chose de dogmatique. Vous êtes tenu à viser les mêmes objectifs que toutes les autres communes de la métropole. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce qu'on peut donner des exemples d'actions qui ont été adaptées selon la taille des communes ou même parfois, pour certaines, carrément abandonnées parce qu'elles ne sont pas pertinentes, tout simplement?
Alors, dans les actions qui ont été adaptées, bien, tout le monde produit de la voirie, mais on ne produit plus aujourd'hui, par exemple, de la voirie comme on le produisait hier. Il y a des enjeux en termes de perméabilité de tout cela, des coloris qui sont choisis, par exemple, pour gérer justement l'accumulation de la chaleur, pour éviter les îlots de chaleur urbains. Mais ensuite, aujourd'hui, il y a peu de projets qui n'envisagent pas de développement des énergies renouvelables, que ce soit la géothermie, le réseau de chaleur, les photovoltaïques, les panneaux photovoltaïques. Donc chacun s'en empare, la question de la végétalisation des espaces publics est aussi prégnante un peu partout et ce sont des actions qui peuvent se déployer quelle que soit la taille finalement de la commune et ses moyens.
À quelles difficultés se heurtent aujourd'hui les communes pour mettre en place les actions du PCAET? Est-ce qu'elles ont toutes un peu les mêmes? Vous l'avez dit, le nerf de la guerre comme souvent, ça va être l'argent, les moyens dont disposent les communes, en plus dans un contexte malheureusement aujourd'hui où les dotations de l'État sont en baisse.
évidemment, mais là, je crois que les communes ont la chance d'avoir le soutien de Toulouse Métropole, que ce soit en termes d'ingénierie. Et je disais tout à l'heure que nous venions de recruter quelqu'un dédié à l'animation de ce réseau, justement avec les communes, et à les aider à élaborer ces plans communaux. Néanmoins, jusqu'alors, les équipes aidaient quand même les projets communaux et les élus dans le montage de ces projets. Par-delà, la métropole a initié il y a quelques années un dispositif de financement qu'on appelle le Fonds de concours métropolitain pour la transition écologique, et également depuis peu le Fonds de concours sur les projets agricoles, et qui viennent appuyer justement financièrement les projets des communes. Par ailleurs, il y a d'autres démarches. Par exemple, la métropole va aider en constituant des groupements de commandes, ce qui facilite tout le travail de passation des marchés pour les communes. Il s'agit de s'inscrire dans une dynamique, de bénéficier des prix négociés à l'échelle métropolitaine pour répondre aussi aux besoins des communes. Donc là, c'est un appui en ingénierie, pourrait-on dire, mais qui est très fort. Et ensuite, ça va être également, je le citais, parce que c'est très important en amont d'être convaincu, un enjeu de sensibilisation auquel elle s'adonne, pour le grand public, comme pour les élus et les techniciens, pour être toujours à niveau sur ces questions-là.
Comment vous travaillez tous ensemble? Est-ce qu'il y a des réunions régulières pour faire avancer certaines actions ou pour cibler certaines d'entre elles ou certains axes du PCAET, et qui participe à ces réunions?
Alors, depuis 2022, nous avons relancé un dispositif de partage d'informations qui allie les élus et les techniciens des communes, de la métropole et de partenaires en fonction des sujets, qu'on a appelé les ateliers des idées, et qui, dans ce cadre-là, autour d'une thématique en particulier, durant 2 heures, vont partager des bonnes pratiques, des informations nouvelles, des informations réglementaires, autour de sujets aussi variés que le déploiement du photovoltaïque, la gestion de la ressource en eau, l'écomobilité, le décret tertiaire, enfin tout un tas de nouvelles. Et encore hier, nous développions la question de l'adaptation, justement la stratégie d'adaptation au changement climatique.
Ces réunions ont lieu où ?
À Toulouse Métropole.
À Toulouse Métropole. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de participants à chaque fois.
On a la chance d'avoir une belle participation des communes, et le fait de proposer tant aux techniciens qu'aux élus, effectivement, on permet d'avoir systématiquement une participation assez intéressante.
Est-ce que parfois on arrive à des constats de blocage, ou en tout cas d'impossibilité de faire avancer certaines actions dans certaines communes, voire dans toutes? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que fait la métropole? Qu'est-ce que vous proposez?
Alors aujourd'hui, l'accompagnement des communes, il est assez récent, il est assez frais, hein, de façon si prégnante, puisque rappelons que les services aujourd'hui environnement sont mutualisés Ville de Toulouse et Toulouse Métropole, et déjà ont beaucoup à faire, puisque la place de Toulouse dans la métropole toulousaine fait que forcément une action réalisée à l'échelle de la ville a un impact très important pour toute la métropole. Donc il y avait peut-être cette concentration, et aujourd'hui il y a cet appui aux communes. Donc on est sur une action qui méritera quelque temps pour être jugée, me semble.
Il y a une contrainte qui s'est faite récemment dans le cadre de la loi Climat et Résilience, c'est le zéro artificialisation nette. Est-ce que c'est une contrainte qui est intégrée dans le PCAET et de laquelle vous discutez entre vous?
Alors disons que dans les enjeux qui sont ceux de l'adaptation, il y a le fait de limiter l'artificialisation des sols. Donc il y a des objectifs au niveau du PCAET de ce point de vue-là, mais qui ont été largement renforcés par la loi Climat et Résilience, comme vous l'avez dit, objectifs qui se déclinent dans le PLUIH, donc dans le plan local d'urbanisme intercommunal, et c'est là qu'il trouve sa concrétisation.
Oui, sachant qu'il y a des communes qui ont des objectifs de construction de logements, par exemple, peut-être supérieurs à d'autres, parce qu'elles ont encore de la surface pour construire, alors que d'autres sont déjà saturées. Donc les problématiques sont sans doute pas les mêmes suivant les communes.
Alors je ne crois pas que ça se situe ainsi, parce que les objectifs de construction de logements ne sont pas en fonction des terrains disponibles, puisque précisément la loi Climat et Résilience avec le zéro artificialisation nette est venue imposer à toutes les communes la reconstruction de la ville sur elle-même, le renouvellement urbain. Donc l'enjeu se situe plutôt en fonction des aménités dont elle dispose, dans quelle mesure elle est une centralité pour le bassin de vie dans lequel elle se situe, quel transport en commun elle dispose. Voilà, ce sont des questions comme ça qui ont quantifié les objectifs de chacune des communes.
La phase actuelle du PCAET arrive donc à son terme en 2025. La prochaine phase, à compter de 2026, va-t-elle reprendre les actions et les objectifs de celle qui est en cours ?
Forcément, il n'y a pas d'objectif qui soit périmé en soi. En revanche, il y aura une nécessaire actualisation, mise à jour de ces enjeux, même avant même de parler de chacune des actions. Il y aura des enjeux nouveaux qui seront certainement intégrés. Il y a actuellement une phase de préfiguration de ce document de demain, et on envisage, il y a une réflexion pour intégrer de nouveaux enjeux qui jusqu'alors n'étaient pas forcément mentionnés. Par exemple, la question de la biodiversité. Également est en train d'être élaborée une stratégie métropolitaine pour l'adaptation au réchauffement climatique, eh bien, cette dimension adaptation va trouver une toute nouvelle envergure dans le prochain PCAET, c'est certain.
Donc vous êtes en phase de réflexion actuellement, de travail, de l'élaboration de la prochaine phase du PCAET qui donc sera lancée après les élections de 2026.
Disons plutôt que la révision va s'entamer fin 2025, début 2026, qu'évidemment il ne peut pas y avoir de plan d'action qui soit élaboré à la sortie d'un mandat, et donc ce sera alors, avec les nouveaux élus, qu'il y aura la mise en place de ce nouveau document, de ces nouvelles actions, et que pour l'heure, il s'agit plutôt de tirer des bilans et d'élaborer la méthodologie justement pour ce futur document qui devrait, si tout va bien, être finalement adopté que fin 2027.
Alors, on dit que les contraintes environnementales, les contraintes face au réchauffement climatique sont de plus en plus fortes, de plus en plus grandes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ça vous oblige à faire toujours mieux, peut-être avec moins de moyens?
Oui. Oui, ça oblige à se réinventer, ça oblige l'efficacité toujours plus forte
de
l'action publique. Moi, je salue quand même à ce titre le travail des agents qui sont particulièrement engagés. En ce domaine, on a la chance d'avoir à Toulouse Métropole des agents particulièrement affûtés, qui travaillent intensément pour la réussite de ces objectifs-là, qui sont aidés par une administration qui se met en ordre de marche autour de tout cela, de la transition énergétique et écologique. Donc oui, il y a des objectifs de plus en plus forts. Moi, je crois à la nécessaire réglementation dans un tel domaine parce que la seule incitation, la seule sensibilisation n'est pas suffisante. Et donc, souvent, on a besoin de la loi et des règlements nationaux pour nous inviter à l'action plus...
Et de se fixer des objectifs ambitieux.
Et de se fixer ensuite des objectifs ambitieux localement. Néanmoins, notons que la tendance nationale, justement, dans ces réglementations et ces législations, sont déjà de plus en plus ambitieux.
Alors, en parlant de réglementation... Il y en a une, là aussi, qui est assez récente, c'est la mise en place des ZFE, des zones à faible émission. Et celle de Toulouse Métropole, bon, on a eu l'occasion d'en parler ici, notamment avec votre collègue François Chollet, donc vice-président aussi de Toulouse Métropole, en charge du PCAET globalement, et de tout ce qui concerne l'environnement et la santé, l'écologie, pardon, et la santé. Et vous devez avoir des réactions du terrain, puisque vous avez affaire à tous les maires des communes et les élus à l'environnement. Qu'est-ce qui vous remonte du terrain comme réaction de leurs administrés pour la mise en place de cette ZFE?
Nul ne doute de la nécessité d'agir pour la qualité de l'air. Donc ça, c'est un enjeu de santé publique majeur qui a fait que la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne et qui l'a incité à l'action. C'est ce qui a notamment conduit à l'adoption de cette réglementation sur les zones à faible émission, comme on l'est trouvé d'ailleurs dans d'autres pays européens. Néanmoins, ça n'a pas été accompagné, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de dynamique de conduite du changement qui a permis de rendre admissible une telle réforme et qui a suscité chez les élus et sur le terrain, de la part de la population, bon nombre d'inquiétudes quant à l'impact social que pouvait avoir une telle réforme. C'est-à-dire que ça n'a pas été accompagné.
Et à juste titre, on peut le dire.
Oui, et à juste titre. Sauf que ce sont des réformes qui ont été conduites sous l'effet de la loi et qui donc auraient dû être accompagnées à l'échelle nationale. La métropole a pris sa part puisqu'elle a mis en place des aides à la conversion des véhicules, des aides assez poussées,
des primes,
y compris aux communes,
oui.
Des primes. Mais néanmoins, il fallait un geste certainement plus fort qui ne pouvait venir que de l'État.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être un peu dans le flou. Hein. Il y a des reculades, on remet ça sur le tapis, puis on freine de nouveau. Vous pensez qu'on va arriver à vraiment les mettre en place, ces ZFE? Qu'est-ce qui va manquer aujourd'hui? Est-ce qu'il va falloir attendre, excusez-moi, c'est à deux ans, mais est-ce qu'il va falloir attendre l'élection présidentielle de 2027 pour relancer la machine?
Alors, je ne lis pas dans les boules de cristal, désolé, mais néanmoins, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement cette tension aujourd'hui de ce sujet-là. Certains s'en sont emparés certainement dans une démarche très politicienne. Je maintiens qu'il y a la nécessité de penser la question de la qualité de l'air et donc d'y apporter des réponses. Néanmoins, ça doit être accompagné d'un changement qui est accompagné socialement par des aides en direction des ménages qui auront besoin de changer leur véhicule demain.
Donc le sujet reste ouvert et sur la table. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Romain Vaillant de nous avoir présenté le PCAET de Toulouse Métropole et sa déclinaison dans les communes. Ce document est consultable sur le site www.metropole.toulouse.fr. Vous trouverez entre autres le détail des actions qu'il rassemble. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupré, à la technique Yannick Galupini. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.